Spinoza, éthique, quatrième partie, de la servitude de l'homme ou des forces des affections. Préface. J'appelle servitude l'impuissance de l'homme à gouverner et réduire ses affections. Soumis aux affections, en effet, l'homme ne relève pas de lui-même mais de la fortune, dont le pouvoir est tel sur lui que souvent il est contraint, voyant le meilleur, de faire le pire. Je me suis proposé dans cette partie d'expliquer cet état par sa cause et de montrer en outre ce qu'il y a de bon et de mauvais dans les affections. Avant de commencer, toutefois, il convient de présenter quelques observations préliminaires sur la perfection et l'imperfection et sur le bien et le mal. Qui a résolu de faire une chose et la parfaite, son œuvre est parfaite, non seulement à l'en croire, mais au jugement de quiconque sait droitement ou croit savoir la pensée de l'auteur et son but. Si, par exemple, on voit une œuvre que je suppose n'être pas achevée, et si l'on sait que le but de l'auteur et d'édifier une maison. On dira que la maison est imparfaite, et parfaite au contraire, sitôt qu'on l'avait rapportée au point d'achèvement que son auteur avait résolu de lui faire atteindre. Mais, si l'on voit une œuvre sans avoir jamais vu rien de semblable, et qu'on ignore la pensée de l'artisan, certes, on ne pourra savoir si elle est parfaite ou imparfaite. Telle paraît être la première signification de ces vocables. Quand toutefois les hommes eurent commencé de former des idées générales et de se représenter par la pensée des modèles de maisons, d'édifices, de tours, etc., et comme aussi de préférer certains modèles à d'autres, il est advenu que chacun appela parfait ce qu'il voyait s'accorder avec l'idée générale formée par lui des choses de même sorte, et imparfait, au contraire, ce qu'il voyait qui était moins conforme au modèle conçu par lui. Encore que l'artisan eût entièrement exécuté son propre dessein. Il ne paraît pas qu'il y ait d'autres raisons pourquoi l'on nomme parfaites ou imparfaites les choses de la nature, c'est-à-dire non faites par la main de l'homme. Les hommes, en effet, ont accoutumé de former tant des choses naturelles que des produits de leur art propre, des idées générales, qu'ils tiennent pour des modèles. Ils croient que la nature y a égard, suivez leur opinion, elle n'agit jamais que pour une fin, et se les propose comme modèles. Lors donc, qu'ils voient se faire dans la nature quelque chose de peu conforme au modèle par eux conçu pour une chose de même sorte. Ils croient que la nature elle-même s'est trouvée en défaut ou à pécher et qu'elle a laissé imparfaite son œuvre. Aussi, voyons-nous les hommes appeler coutumièrement parfaites ou imparfaites les choses naturelles, plus en vertu d'un préjugé que par une vraie connaissance de ces choses. Nous l'avons montré en effet dans l'appendice de la première partie, la nature n'agit pas pour une fin. Cet être éternel et infini, que nous appelons Dieu ou la nature, agit avec la même nécessité qu'il existe. Car la même nécessité de nature par laquelle il existe, est celle aussi, nous l'avons fait voir, proposition 16, partie 1, par laquelle il agit. Donc, la raison ou la cause, pourquoi Dieu ou la nature agit et pourquoi il existe, est une et toujours la même. N'existant pour aucune fin, il n'agit donc aussi pour aucune. Et comme son existence, son action aussi n'a ni principe ni fin. Ce qu'on appelle cause finale n'est d'ailleurs rien que l'appétit humain en tant qu'il est considéré comme le principe ou la cause primitive d'une chose. quand, par exemple, nous disons que l'habitation a été la cause finale de telle ou telle maison. Certes, nous n'entendons rien d'autre sinon qu'un homme, ayant imaginé les avantages de la vie de maison, a eu l'appétit de construire une maison. L'habitation, donc, en tant qu'elle est considérée comme une cause finale, n'est rien de plus qu'un appétit singulier. Et cet appétit est en réalité une cause efficiente, considérée comme première, parce que les hommes ignorent communément les causes de leurs appétits. Ils sont en effet, je l'ai dit souvent, conscients de leurs actions et appétits, mais ignorants des causes par où ils sont déterminés à appéter quelque chose. Pour ce qu'on dit vulgairement, que la nature est en défaut, ou pêche parfois, et produit des choses imparfaites, je le range au nombre des propos que j'ai examinés dans l'appendice de la première partie. La perfection, donc, et l'imperfection ne sont en réalité que des modes de pensée, je veux dire des notions que nous avons accoutumé de forger parce que nous comparons entre eux les individus de même espèce ou de même genre. À cause de quoi j'ai dit plus haut, définition 6, partie 2, que par perfection et réalité, j'entendais la même chose. Nous avons coutume, en effet, de ramener tous les individus de la nature à un genre unique, appelé généralissime, autrement dit, à la notion de l'être qui appartient à tous les individus de la nature absolument. Entend donc que nous ramenons les individus de la nature à ce genre et les comparons entre eux, et dans la mesure où nous trouvons que les uns ont plus d'entité ou de réalité que les autres, nous disons qu'ils sont plus parfaits les uns que les autres, et en tant que nous leur attribuons quelque chose qui, telle une limite, une fin, une impuissance, enveloppe une négation, nous les appelons imparfaits, parce qu'ils n'affectent pas notre âme pareillement à ceux que nous appelons parfaits, et non parce qu'il leur manque quelque chose qui leur appartienne, ou que la nature est péché. Rien, en effet, n'appartient à la nature d'une chose, sinon ce qui suit de la nécessité de la nature d'une cause efficiente, et tout ce qui suit de la nécessité de la nature d'une cause efficiente arrive nécessairement. Quant au bon et au mauvais, il n'indique également rien de positif dans les choses, considérées du moins en elles-mêmes, et ne sont autre chose que des modes de pensée ou des notions que nous formons parce que nous comparons les choses entre elles. Une seule et même chose peut être dans le même temps bonne et mauvaise, et aussi indifférente. Par exemple, la musique est bonne pour le mélancolique, mauvaise pour l'affligé. Pour le sourd, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Bien qu'il en soit ainsi, cependant, il nous faut conserver ces vocables. Désirant, en effet, former une idée de l'homme qui soit, comme un modèle de la nature placé devant nos yeux, il nous sera utile de conserver ces vocables dans le sens que j'ai dit. J'entendrai donc, par bon, dans ce qui va suivre, ce que nous savons avec certitude qui est un moyen de nous rapprocher de plus en plus du modèle de la nature humaine que nous nous proposons. Par mauvais, au contraire, ce que nous savons avec certitude qui nous empêche de reproduire ce modèle. Nous dirons, en outre, les hommes plus ou moins parfaits, suivant qu'ils se rapprocheront plus ou moins de ce même modèle. Il faut l'observer avant tout, en effet. Si je dis que quelqu'un passe d'une moindre à une plus grande perfection, ou inversement, je n'entends point par là que d'une essence ou forme il se mue en une autre. Un cheval, par exemple, est détruit aussi bien s'il se mue en homme que s'il se mue en insecte. C'est sa puissance d'agir, en tant qu'elle est ce qu'on entend par sa nature, que nous concevons comme accrue ou diminuée. Par perfection en général, enfin, j'entendrai, comme je l'ai dit, la réalité, c'est-à-dire l'essence d'une chose quelconque en tant qu'elle existe et produit quelque effet en une certaine manière, n'ayant nul égard à sa durée. Nulle chose singulière, en effet, ne peut être dite plus parfaite pour la raison qu'elle a persévéré plus longtemps dans l'existence. Car la durée des choses ne peut être déterminée par leur essence, puisque l'essence des choses n'enveloppe aucun temps certain et déterminée d'existence. Mais une chose quelconque, qu'elle soit plus ou moins parfaite, pourra persévérer toujours dans l'existence avec la même force par quoi elle a commencé d'exister, de sorte que toutes sont égales en cela. Définition. 1. J'entendrai par bon ce que nous savons avec certitude nous être utile. 2. J'entendrai par mauvais, au contraire, ce que nous savons avec certitude empêcher que nous ne possédions un bien. Sur les définitions précédentes, voir la préface vers la fin. 3. J'appelle les choses singulières contingentes, en tant qu'ayant égard à leur seule essence, nous ne trouvons rien qui pose nécessairement leur existence ou l'exclut nécessairement. 4. J'appelle les mêmes choses singulières possibles en tant qu'ayant égard aux causes par où elles doivent être produites, nous ne savons si ces causes sont déterminées de façon à les produire. Dans le scoli de la proposition 33, partie 1, je n'ai fait aucune différence entre le possible et le contingent, parce qu'il n'était pas nécessaire en cet endroit de les distinguer avec soin. 5. J'entendrai, dans ce qui suit, par affection contraire, celle qui traîne l'homme dans des directions différentes, même si elles sont du même genre, comme la gourmandise et l'avarice, qui sont des espèces d'amour. Elles sont contraires, non par nature, mais par accident. 6. J'ai expliqué dans les scolies 1 et 2 de proposition 18, partie 3, ce que j'entends par affection à l'égard d'une chose future, présente et passée. J'y renvoie. Il faut cependant noter ici, en outre, que, pas plus qu'une distance de lieu, nous ne pouvons imaginer distinctement une distance de temps au-delà d'une certaine limite. En d'autres termes, comme tous les objets distants de nous de plus de 200 pieds ou dont la distance du lieu où nous sommes dépasse celle que nous imaginons distinctement, nous sont habituellement représentés par l'imagination à égale distance de nous comme s'ils étaient dans le même plan, de même aussi, les objets dont nous imaginons que le temps d'existence est séparé du présent par un intervalle plus grand que celui que nous avons accoutumé d'imaginer distinctement, nous les représentons tous par l'imagination à égale distance du présent et nous les rapportons en quelque sorte à un même instant du temps. 7. Par fin pour laquelle nous faisons quelque chose, j'entends l'appétit. 8. Par vertu et puissance, j'entends la même chose, c'est-à-dire, proposition 7, partie 3, la vertu, en tant qu'elle se rapporte à l'homme, est l'essence même ou la nature de l'homme, en tant qu'il a le pouvoir de faire certaines choses, se pouvant connaître par les seules lois de sa nature. Axiome. Il n'est donné dans la nature aucune chose singulière qu'il n'en soit donné une autre plus puissante et plus forte. Mais si une chose quelconque est donnée, une autre plus puissante, par laquelle la première peut être détruite, est donnée. Proposition 1. Rien de ce qu'une idée fausse a de positif n'est ôté par la présence du vrai en tant que vrai. Démonstration. La fausseté consiste seulement dans la privation de connaissances qu'enveloppent les idées inadéquates. Proposition 35, partie 2. Et elles n'ont rien de positif, à cause de quoi elles sont dites fausses. Proposition 33, partie 2. Mais au contraire, en tant qu'elles se rapportent à Dieu, elles sont vraies. Proposition 32, partie 2. Si donc, ce qu'une idée fausse a de positif était ôté par la présence du vrai en tant qu'il est vrai, une idée vraie serait ôtée par elle-même, ce qui, proposition 4, partie 3, est absurde. Donc, rien de ce qu'une idée fausse, etc., c'est QFD. Scoli. Cette proposition se connaît plus clairement par le corollaire 2 de la proposition 16, partie 2. Car une imagination est une idée qui indique plutôt l'état du corps humain que la nature du corps extérieur, non distinctement à la vérité, mais confusément. Par où il arrive que l'âme est dite errée. Quand par exemple nous regardons le soleil, nous imaginons qu'il est distant de nous d'environ 200 pieds. En quoi nous nous trompons aussi longtemps que nous ignorons sa vraie distance? Mais quand elle est connue, l'erreur, certes, est ôtée, mais non dans l'imagination, laquelle explique la nature du soleil en tant qu'elle affecte le corps. Et ainsi, bien que connaissant sa vraie distance, nous n'imaginerons pas moins qu'il est proche de nous. Comme nous l'avons dit en effet dans le scoli de la proposition 35, partie 2, nous n'imaginons pas le soleil proche parce que nous ignorons sa vraie distance, mais parce que l'âme conçoit la grandeur du soleil d'une façon qui est en rapport avec l'affection venue au corps de lui. De même, quand les rayons du soleil tombant sur la surface de l'eau parviennent à nos yeux après réflexion, nous l'imaginons comme s'il était dans l'eau, encore que sachant le lieu où il est vraiment. Et les autres imaginations par où l'âme est trompée, qu'elles indiquent l'état naturel du corps ou qu'elles indiquent soit un accroissement, soit une diminution de sa puissance d'agir, ne sont pas contraires au vrai et ne s'évanouissent pas par sa présence. Il arrive bien, quand nous avons à faux peur de quelque mal, que la peur s'évanouisse à l'ouïe d'une nouvelle vraie. Mais il arrive aussi, en revanche, quand nous avons peur d'un mal dont la venue est certaine, que la peur s'évanouisse aussi à l'ouïe d'une nouvelle fausse. Et ainsi les imaginations ne s'évanouissent pas par la présence du vrai en tant que vrai, mais parce qu'il s'en offre de plus fortes, qui exclut l'existence présente des choses que nous imaginons, comme nous l'avons montré, proposition 17, partie 2. Proposition 2. Nous pâtissons en tant que nous sommes une partie de la nature qui ne peut se concevoir par soi sans les autres parties. Démonstration. Nous sommes dits passifs quand quelque chose se produit en nous de quoi nous ne sommes cause que partiellement. Définition 2, partie 3, c'est-à-dire, définition 1, partie 3, quelque chose qui ne peut être déduit des seules lois de notre nature. Nous pâtissons donc en tant que nous sommes une partie de la nature qui ne peut se concevoir par soi sans les autres parties. C'est QFD. Proposition 3. La force avec laquelle l'homme persévère dans l'existence est limitée et surpassée infiniment par la puissance des causes extérieures. Démonstration. Cela est évident par l'axiome de cette partie. Car, si un homme est donné, quelque autre chose plus puissante, disons A, est donnée, et si A est donnée, quelque autre chose encore, disons B, plus puissante que A, et cela à l'infini. Par suite, la puissance de l'homme est limitée par celle d'une autre chose et infiniment surpassée par celle des causes extérieures. C'est QFD. Proposition 4. Il est impossible que l'homme ne soit pas une partie de la nature et ne puisse éprouver d'autres changements que ceux qui se peuvent connaître par sa seule nature et dont il est cause adéquate. Démonstration. La puissance par laquelle les choses singulières, et conséquemment l'homme, conservent leur être, est la puissance même de Dieu ou de la nature. Corollaire de la proposition 24, partie 1. Non en tant qu'elle est infinie, mais en tant qu'elle peut s'expliquer par une essence humaine actuelle. Proposition 7, partie 3. Donc, la puissance de l'homme, en tant qu'elle s'explique par son essence actuelle, est une partie de la puissance infinie, c'est-à-dire de l'essence, proposition 34, partie 1, de Dieu ou de la nature. Ce qui était le premier point. Si maintenant, il était possible que l'homme pût n'éprouver d'autres changements que ceux qui se peuvent connaître par la seule nature de l'homme lui-même, il s'en suivrait, proposition 4 et 6, partie 3, qu'il ne pourrait périr, mais existerait toujours nécessairement. Et cela devrait suivre d'une cause dont la puissance fut finie ou infinie. Je veux dire, ou bien de la seule puissance de l'homme qui pourrait donc écarter de lui-même les autres changements pouvant venir de causes extérieures, ou bien par la puissance infinie de la nature, dirigeant toutes les choses singulières, de façon que l'homme pût éprouver ces changements seulement qui servent à sa conservation. Mais la première hypothèse est absurde par la proposition précédente, dont la démonstration est universelle et peut être appliquée à toutes les choses singulières. Si donc, il se pouvait que l'homme n'éprouvât d'autres changements que ceux qui se peuvent connaître par sa seule nature, et conséquemment, comme nous venons de le montrer, exista toujours, cela devrait suivre de la puissance infinie de Dieu. Et en conséquence, proposition 16, partie 1, de la nécessité de la nature divine, en tant qu'elle est considérée comme affectée de l'idée d'un homme, devrait se déduire tout l'ordre de la nature conçu sous les attributs de l'étendue et de la pensée. Il suivrait de là, proposition 21, partie 1, que l'homme serait infini, ce qui, par la première partie de cette démonstration, est absurde. Il est donc impossible que l'homme n'éprouve d'autres changements que ceux dont il est cause adéquate. C'est QFD. Corollaire. Il suit de là que l'homme est nécessairement toujours soumis aux passions, suit l'ordre commun de la nature et lui obéit et s'y adapte autant que la nature des choses l'exige. Proposition 5. La force est la croissance d'une passion quelconque, et sa persévérance à exister ne se définissent point par la puissance avec laquelle nous persévérons dans l'existence, mais par la puissance de la cause extérieure comparée à la nôtre. Démonstration. L'essence d'une passion ne peut s'expliquer par notre seule essence, définition 1 et 2, partie 3, c'est-à-dire, proposition 7, partie 3, la puissance d'une passion ne peut se définir par la puissance avec laquelle nous persévérons dans notre être. Mais, comme nous l'avons montré, proposition 16, partie 2, doit se définir nécessairement par la puissance de la cause extérieure comparée à la nôtre. C'est QFD. Proposition 6. La force d'une passion ou d'une affection peut surpasser les autres actions de l'homme ou sa puissance, de telle sorte que cette affection demeure attachée à l'homme. Démonstration. La force et la croissance d'une passion quelconque, et sa persévérance à exister, se définissent par la puissance de la cause extérieure comparée à la nôtre. Proposition précédente. Elle peut donc, proposition 3, surpasser la puissance de l'homme, etc. CQFD. Proposition 7. Une affection ne peut être réduite ni ôtée, sinon par une affection contraire, et plus forte que l'affection à réduire. Démonstration. Une affection en tant qu'elle se rapporte à l'âme est une idée par laquelle l'âme affirme une force d'exister de son corps plus grande ou moindre qu'auparavant. Définition générale des affections à la fin de la troisième partie. Quand donc l'âme est dominée par quelque affection, le corps est affecté en même temps d'une affection qui accroît ou diminue sa puissance d'agir. En outre, cette affection du corps, proposition 5, reçoit de sa cause la force de persévérer dans son être. Elle ne peut donc être réduite ni ôtée, sinon par une cause corporelle. Proposition 6, partie 2, qui affecte le corps d'une affection contraire à elle, proposition 5, partie 3, est plus forte, axiome. Et alors, proposition 12, partie 2, l'âme sera affectée de l'idée d'une affection plus forte et contraire à la première, c'est-à-dire, définition générale des affections, que l'âme éprouvera une affection plus forte et contraire à la première, qui exclura ou ôtera l'existence de la première. Et par suite, une affection ne peut être ni ôtée ni réduite, sinon par une affection contraire et plus forte. CQFD. Corollaire. Une affection, en tant qu'elle se rapporte à l'âme, ne peut être réduite ni ôtée, sinon par l'idée d'une affection du corps contraire à celle que nous éprouvons, et plus forte qu'elle. Car une affection par laquelle nous pâtissons ne peut être réduite ni ôtée, sinon par une affection plus forte qu'elle et contraire à elle, c'est-à-dire, définition générale des affections, par l'idée d'une affection du corps plus forte que celle dont nous pâtissons et contraire à elle. Proposition 8. La connaissance du bon et du mauvais n'est rien d'autre que l'affection de la joie ou de la tristesse en tant que nous en avons conscience. Démonstration. Nous appelons bon ou mauvais ce qui est utile ou nuisible à la conservation de notre être. Définition 1 et 2. C'est-à-dire, proposition 7, partie 3, ce qui accroît ou diminue, seconde ou réduit notre puissance d'agir. Entend donc, définition de la joie et de la tristesse, scoli de la proposition 11, partie 3, que nous percevons qu'une chose nous affecte de joie ou de tristesse, nous l'appelons bonne ou mauvaise. Et ainsi, la connaissance du bon et du mauvais n'est rien d'autre que l'idée de la joie ou de la tristesse qui suit nécessairement, proposition 22, partie 2, de l'affection même de la joie ou de la tristesse. Mais cette idée est unie à l'affection de la même manière que l'âme est unie au corps, proposition 21, partie 2. C'est-à-dire, comme nous l'avons montré dans le scolier de la même proposition, cette idée ne se distingue en réalité de l'affection elle-même, ou, définition générale de l'affection, de l'idée d'une affection du corps, que par la conception que nous en avons. Donc, cette connaissance du bon et du mauvais n'est rien d'autre que l'affection même, en tant que nous en avons conscience. CQFD. Proposition 9. Une affection dont nous imaginons que la cause est actuellement présente est plus forte que si nous n'imaginions pas la présence de cette cause. Démonstration. Une imagination est une idée par laquelle nous considérons une chose comme présente. Scully de la proposition 17, partie 2. Mais qui indique plutôt l'état du corps humain que la nature de la chose extérieure. Corollaire 2 de la proposition 16, partie 2. Une affection est donc une imagination, définition générale des affections, en tant qu'elle indique l'état du corps. Mais une imagination est plus intense, proposition 17, partie 2, aussi longtemps que nous n'imaginons rien qui exclut l'existence présente de la chose extérieure. Donc, une affection aussi, dont nous imaginons que la cause est actuellement présente, est plus intense ou plus forte que si nous n'imaginions pas la présence de cette cause. C'est QFD. Scully. Quand j'ai dit proposition 18, partie 3, que nous sommes affectés de la même affection par l'image d'une chose future ou passée que si la chose imaginée était présente, j'ai expressément fait observer que cela est vrai en tant que nous avons égard à la seule image de la chose elle-même. Elle est de même nature en effet que nous ayons imaginé les choses comme présentes ou non. Je n'ai pas nié cependant que cette image est rendue plus faible quand nous considérons la présence d'autres choses excluant l'existence présente de la chose future. Je ne l'ai pas fait observer à ce moment parce que j'avais résolu de traiter dans cette partie-ci des forces des affections. Corollaire. L'image d'une chose future ou passée, c'est-à-dire d'une chose que nous nous représentons avec une relation au temps futur ou passé, le présent exclu, est plus faible, toute chose égale d'ailleurs que l'image d'une chose présente. Et conséquemment, une affection se rapportant à une chose future ou passée sera, toute chose égale d'ailleurs, plus relâchée qu'une affection se rapportant à une chose présente. Proposition 10. À l'égard d'une chose future, que nous imaginons devoir être prochainement, nous sommes affectés de façon plus intense que si nous imaginions que son temps d'existence est beaucoup plus éloigné du présent. Et le souvenir d'une chose que nous imaginons n'être pas passée depuis longtemps nous affecte aussi de façon plus intense que si nous l'imaginions passée depuis longtemps. Démonstration. On entend en effet que nous imaginons qu'une chose sera prochainement ou n'est pas passée depuis longtemps. Nous imaginons, par cela même, quelque chose qui exclut moins sa présence que si nous imaginions que son temps d'exister est plus éloigné du présent ou qu'elle est passée depuis longtemps, comme il est connu de soi. Par suite, proposition précédente, nous serons dans la même mesure affectés de façon plus intense à son égard. CQFD. Scully. Il suit de l'observation jointe à la définition 6 qu'à l'égard des objets séparés du temps présent par un intervalle plus grand que celui que nous pouvons déterminer dans l'imagination, nous sommes affectés d'une façon également modérée, bien que nous connaissions qu'ils sont séparés entre eux par un long intervalle de temps. Proposition 11. Une affection se rapportant à une chose que nous imaginons comme nécessaire est plus intense, toute chose égale d'ailleurs, que si elle se rapportait à une chose possible ou contingente, c'est-à-dire non nécessaire. Démonstration. En tant que nous imaginons qu'une chose est nécessaire, nous affirmons son existence, et au contraire, nous nions l'existence d'une chose en tant que nous imaginons qu'elle n'est pas nécessaire. Scoli 1 de la proposition 33, partie 1. Et par suite, proposition 9, une affection se rapportant à une chose nécessaire sera plus intense, toute chose égale d'ailleurs, que si elle se rapportait à une chose non nécessaire. CQFD. Proposition 12. Une affection se rapportant à une chose que nous savons ne pas exister présentement et que nous imaginons comme possible est, toute chose égale d'ailleurs, plus intense que si elle se rapportait à une chose contingente. Démonstration. En tant que nous imaginons une chose comme contingente, nous ne sommes affectés par aucune image autre que celle de cette chose et qui puisse en poser l'existence. Définition 3. En revanche, suivant l'hypothèse, nous imaginons certaines choses qui en excluent l'existence présente. En tant, au contraire, que nous imaginons qu'une chose est possible dans le futur, nous imaginons certaines choses qui en posent l'existence. Définition 4. C'est-à-dire, proposition 18, partie 3, qui alimente l'espoir ou la crainte. Et par suite, l'affection se rapportant à une chose possible est plus vive. C'est QFD. Corollaire. Une affection se rapportant à une chose que nous savons ne pas exister dans le présent et que nous imaginons comme contingente est beaucoup plus relâchée que si nous imaginions que la chose est actuellement présente. Démonstration. Une affection se rapportant à une chose que nous imaginons qui existe présentement est plus intense que si nous en imaginions l'objet comme futur, corollaire de la proposition 9. Et elle est beaucoup plus vive que si nous imaginions que ce temps futur est très éloigné du présent, proposition 10. Une affection se rapportant à une chose dont nous imaginons que le temps d'existence est très éloigné du présent, est donc beaucoup plus relâchée que si nous imaginions l'objet comme présent. Et néanmoins elle est plus intense, proposition précédente, que si nous l'imaginions comme contingent. Et ainsi, une affection se rapportant à une chose contingente sera beaucoup plus relâchée que si nous imaginions que la chose est actuellement présente. C'est QFD. Proposition 13. Une affection se rapportant à une chose contingente que nous savons ne pas exister présentement est, toute chose égale d'ailleurs, plus relâchée qu'une affection se rapportant à une chose passée. Démonstration. En tant que nous imaginons une chose comme contingente, nous ne sommes affectés de l'image d'aucune autre qui pose l'existence de la première. Définition 3. Mais au contraire, suivant l'hypothèse, nous imaginons certaines choses qui en excluent l'existence présente. Quand cependant nous l'imaginons avec une relation au temps passé, nous sommes supposés imaginer quelque chose qui la ramène à la mémoire ou en éveille l'image. Proposition 18, partie 2, avec son corollaire, et fait par suite que nous la considérions comme si elle était présente. Corollaire de la proposition 17, partie 2. Et ainsi, proposition 9, une affection se rapportant à une chose contingente que nous savons ne pas exister présentement sera plus relâchée, toute chose égale d'ailleurs, qu'une affection se rapportant à une chose passée. CQFD. Proposition 14. La connaissance vraie du bon et du mauvais ne peut, en tant que vrai, réduire aucune affection, mais seulement en tant qu'elle est considérée comme une affection. Démonstration. Une affection est une idée par laquelle l'âme affirme une force d'exister de son corps plus grande ou moindre qu'auparavant. Définition générale des affections. Et ainsi, proposition 1, elle n'a rien de positif qui puisse être ôté par la présence du vrai. Conséquemment, la connaissance vraie du bon et du mauvais ne peut, en tant que vrai, réduire aucune affection. Mais en tant qu'elle est une affection, voire proposition 8, si elle est plus forte que l'affection à réduire, elle pourra dans cette mesure seulement la réduire, par la proposition 7. C'est QFD. Proposition 15. Un désir qui naît de la connaissance vraie du bon et du mauvais peut être éteint ou réduit par beaucoup d'autres désirs naissant des affections par lesquelles nous sommes dominés. Démonstration. De la connaissance vraie du bon et du mauvais, en tant qu'elle est une affection, proposition 8, naît nécessairement un désir. Définition 1 des affections. Et il est d'autant plus grand que l'affection d'où il naît est plus grande. Proposition 37, partie 3. Puisque cependant, ce désir, par hypothèse, naît de ce que nous connaissons quelque chose vraiment, il se forme donc en nous, en tant que nous agissons, proposition 3, partie 3, et doit ainsi être connu par notre essence seule. Définition 2, partie 3. Conséquemment, proposition 7, partie 3, sa force et sa croissance doivent être définies par la seule puissance de l'homme. Maintenant, les désirs qui naissent des affections par lesquelles nous sommes dominés sont aussi d'autant plus grands que ces affections seront plus violentes. Par suite, leur force et leur croissance doivent être définies par la puissance des causes extérieures. Proposition 5. Qui, comparée à la nôtre, la surpasse indéfiniment. Proposition 3. Par suite, les désirs qui naissent d'affections de cette sorte pourront être plus violents que celui qui naît de la connaissance vraie du bon et du mauvais. Et par là, proposition 7, pourront réduire ou éteindre ce dernier. CQFD. Proposition 16. Le désir qui naît de la connaissance du bon et du mauvais, en tant qu'elle est relative à l'avenir, peut, plus aisément, être réduit ou éteint par le désir des choses qui sont présentement agréables. Démonstration. Une affection se rapportant à une chose que nous imaginons devoir être est plus relâchée qu'une affection se rapportant à une présente. Corollaire de la proposition 9. Or, un désir qui naît de la connaissance vraie du bon et du mauvais, encore qu'elle ait trait à des choses qui sont bonnes présentement, peut être éteint ou réduit par quelque désir téméraire, par la proposition précédente dont la démonstration est universelle. Donc, un désir qui naît de cette connaissance en tant qu'elle est relative au futur pourra être plus facilement réduit ou éteint, etc. C'est QFD.